Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Saviez-vous, Thierry, que l'ours est un écrivain comme les autres ?
Je l'ai appris à cette occasion.
Voilà, à l'occasion de la lecture de cette bande dessinée d'Alain Cocor, qui adapte en fait un ouvrage paru en 1996, en France en tout cas, édité ici en bande dessinée donc chez Futuropolis, et c'est un ouvrage donc d'un auteur, écrivain et scénariste américain, alors je prends mon souffle, il s'appelle William Kotzwinkel. Je pense que c'est à peu près correctement prononcé. Alors c'est un homme qui a écrit énormément pour les enfants, toujours vivant aujourd'hui d'ailleurs, hein, un petit peu plus de 80 ans, et qui a été reconnu comme une célébrité parce qu'il a fait la novélisation en particulier d'un film de Steven Spielberg qui s'appelle E.T. l'extraterrestre, qui dira certainement quelque chose aux plus âgés d'entre nous. Allez, on va... être obligé de reconnaître cela. Et il a fait aussi cette novélisation pour Superman 3. L'occasion de présenter donc cet auteur, je le redis, écrivain essentiellement pour les enfants, mais qui s'adresse bien souvent par ce biais-là aux adultes. Et c'est le cas à travers cette histoire qui nous est racontée donc par Alain Cocor. Présentez-le-nous, ce Cocor, s'il vous plaît, Thierry.
Ah, c'est quelqu'un dont on apprécie énormément le dessin depuis de nombreux albums. Le charme de la poésie légère, le charme de la surprise, de l'étrange, de l'inattendu. Il y a deux titres qui me viennent immédiatement à l'esprit quand je pense à Cocor. C'est Balade, balade, qui était une façon de revisiter l'histoire de Sancho Panza et Don Quichotte. Une balade, au sens propre du terme. Enfin, balade et balade. Une balade géographique et une balade poétique. Son précédent album, outre ses contributions à la revue dessinée et bien d'autres choses, Alexandrin, l'art de faire des vers à pied, où il réussissait l'exploit car c'en est un, rédigeait un album en alexandrin, de parler de l'alexandrin, de la bête à 12 pieds qui marche sur la tête, comme dirait Monsieur Nougaro.
Oui, avec des jeux de mots en plus.
Il a un dessin qui a un charme vraiment pénétrant, une utilisation des couleurs aussi, toutes sortes de choses qui sont magnifiées dans ce récit. Alors, je vais faire un aveu une fois de plus, hein, j'ai l'impression de radoter quand je dis ça. C'est un livre que j'ai découvert par son adaptation. Quand il nous est arrivé en librairie, ma collègue Gaëlle m'a dit « Lis-le, il va te plaire ». Parce que ma collègue Gaëlle a longtemps travaillé en librairie jeunesse et comme vous le disiez... Kotzwinkel a écrit beaucoup pour la jeunesse. Elle avait lu ce livre et elle était impatiente de voir cette adaptation par Cocor. Moi, j'ai découvert ce livre par cette adaptation et j'ai été totalement charmé. C'est une fable drôle, poétique, inattendue. Enfin, j'ai l'impression de me répéter quand je déroule le panégyrique des qualités de Cocor. Comment raconter ça ? Bah, très simplement, par le début. Le début, il met en scène un professeur d'université qui est réfugié dans une maison très isolée, au fin fond d'une forêt très profonde et très isolée. Il a fui son milieu parce que, à l'université, la seule occupation de ses collègues, c'est de classer les adverbes dans les œuvres connues.
C'est quand même passionnant, ça.
C'est passionnant, mais ça prend du temps. Hein. Ça
en
vous
plus,
occupe, c'est rassant, c'est exténuant. C'est passionnant, comme vous dites. Ça l'a pas passionné. Lui, son idée, c'est d'écrire. C'est d'écrire un grand œuvre littéraire. Mais il joue de malchance parce qu'il a écrit un beau et gros roman qui a brûlé dans l'incendie de sa maison.
Donc il faut recommencer.
Mais il faut recommencer, donc c'est terrible. Mais il faut recommencer en prenant la précaution de le mettre à l'abri une fois écrit avant de le proposer à un éditeur. Alors il a une excellente idée, enfin, je ne sais pas si c'est une excellente idée, en tout cas la suite va montrer que ce n'est pas une excellente idée. Il va aller enterrer ce manuscrit qu'il a rangé dans une mallette, il va l'enterrer au pied d'un arbre au fin fond de la forêt.
Pourtant il n'y a personne dans cette forêt.
Oui et non, il y a un ours, le fameux ours du titre. Un ours débonnaire, mais affamé, qui est à la recherche de nourriture, de miel surtout. Et qui va gratter au pied de l'arbre parce qu'il voit que la terre a été dérangée, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc cet ours gratte et il trouve la mallette. L'avons-nous dit ? Oui, nous l'avons laissé entendre, c'est une fable. Donc c'est pas un ours comme les autres. Si, l'ours est un écrivain comme les autres, mais c'est pas un ours comme les autres. C'est un ours doté, alors je vais pas dire que les ours sont bêtes, hein, mais doté d'une intelligence plus proche de l'humain, je dirais plus proche d'un enfant de 5 ans. C'est-à-dire qu'il va ouvrir la mallette, il est déçu parce qu'il n'y a pas de miel, mais ce qu'il y trouve a l'air intéressant. Il commence à le lire, oui, parce que l'ours est capable de lire.
Et il parle aussi.
Il parle aussi. Alors, il parle peu. Dans un premier temps, on voit les phylactères qui sont au-dessus de sa tête communiquer avec nous sous forme de rébus, plutôt. Il visualise. Mais il éructe quelques mots. Il arrive à lire le manuscrit, il se dit... Je ne sais pas ce que ça vaut, mais pour des humains, ça doit valoir quelque chose. Sûrement quelques pots de miel, en tout cas il l'espère. Et il va se mettre en tête de partir pour la grande ville avec la mallette.
De sortir de la forêt, c'est
triste. De sortir de la forêt, de dénicher quelques vêtements. D'aller proposer ça au premier humain venu, Il n'a aucune notion de ce qu'est un éditeur, etc., etc., de ce que c'est une ville, de vivre en ville, etc. Mais il va partir à l'aventure. Très vite, le succès est au rendez-vous. Alors, on le redit, c'est une femme. Donc, tous les événements, aussi absurdes et aussi délirants soient-ils, nous sont présentés comme parfaitement normaux, un enchaînement tout à fait logique de péripéties. C'est que dans un premier temps, il va se mettre en quête de nourriture, donc il va dans un supermarché, il prend son caddie, et puis il cherche du miel, mais il va découvrir des choses beaucoup plus intéressantes, enfin au moins autant intéressantes que le miel, les cornflakes et les donuts. Ça va lui donner une idée pour se trouver un nom, parce qu'il faut un nom hein, dans le monde des humains, il va s'appeler Dan Flex.
C'est beau quand même, hein. Ça fait penser à un écrivain français d'ailleurs, tiens.
Un vrai nom d'écrivain, il arrive à trouver un éditeur, et c'est l'engouement tout de suite, parce que ce livre, sous ses aspects délirants, burlesques, c'est une satire. C'est une satire très aiguë, très intelligente et très drôle, on l'a dit en introduction. C'est une satire des milieux littéraires, des milieux médiatiques en général. C'est une satire de l'emballement médiatique qui peut avoir lieu autour d'une personnalité neuve, parce qu'on cherche la nouveauté dans le milieu littéraire. Dan Flex, il intrigue, il captive, parce que son manuscrit est intéressant. Mais il captive aussi par sa personnalité. Il parle peu, et pour cause, c'est un ours. Il s'exprime rarement à propos et toujours avec des mots surprenants. Donc, c'est profond ce qu'il dit. S'il parle peu avec des choses déroutantes, c'est que c'est intelligent, c'est profond.
C'est un sage, en fait.
Oui, en fait, c'est un sage. C'est le nouvel Hemingway, parce que la phrase rituelle des milieux itinéraires, c'est « trouver le nouvel Hemingway ». En plus, le côté ours, ça va très bien, parce que Hemingway avait un petit côté ours. Hein.
Légèrement.
Il est séduisant, d'ailleurs il séduit son attaché de presse qui lui tombe littéralement dans ses bras, ses grands bras poilus. Une collection de succès médiatiques, de cocktails. Il parle de plus en plus, toutes choses égales par ailleurs. Il parle beaucoup pour un ours. Il parle par rébus, par image, par... en tout cas, il est invité sur les plateaux, etc. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est frappé au coin du bon sens. Alors c'est un livre vraiment étonnant, qui a un charme fou. Je parlais du charme du dessin de Cocor. Son dessin, sa mise en couleur sont étonnantes. C'est un dessin très, très expressif, très caricatural. On baigne dans une sorte de lumière orange, avec plein de références à la culture pop américaine. Il y a beaucoup de références à Bob Dylan, qu'on maintenant on peut considérer comme un écrivain, puisqu'il a été prix Nobel de la littérature. Mmh. Il y a beaucoup de références à une certaine culture américaine, mais qui est aisément transposable en Europe. Hein. Le snobisme mondain, culturel, médiatique, il est universel. Voilà, c'est un livre, je le répète, très drôle, très bien construit, narrativement très fort, qui retombe sur ses pattes, c'est le cas de le dire pour un ours. La fin n'est pas décevante et tout le monde y trouve son compte, mais je ne révélerai pas la fin parce que c'est mon péché mignon.
Mais sans trahir l'histoire, on peut dire que le professeur d'université écrivain à l'origine du texte est lui un peu désespéré quand même.
Oui, mais il trouvera remède à sa mélancolie.
Voilà, donc pour cette fable qui est à la fois très logique, mais absurde et réjouissante. En tout cas, elle vous a réjoui, vu le grand sourire que vous avez, Thierry, aujourd'hui, avec la lecture de cet ours, un écrivain comme les autres, d'Alain Cocor. Et donc, bien sûr, de William Codswinkle, une parution Futuropolis. Donc, l'occasion de passer un agréable moment. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à une auteure dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, anglaise, qui elle aussi est en plein dans la littérature, mais qui aime bien la caricaturer. Il s'agit de Posy Simmonds. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle-là. Donc allez la retrouver aussi. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Literary Life, qui là aussi s'attire de façon adaptée tout ce milieu-là. Merci beaucoup Thierry, à bientôt.